Est-ce que vous avez déjà utilisé l'expression c'est pas la fin du monde? Hein? Ouais, ça arrive, ça. Ça arrive, par exemple, quand on veut rassurer quelqu'un qui vit une épreuve particulière ou quand nous-mêmes on vit une épreuve en particulier. Hein? On va se dire à soi-même pour essayer de se consoler un petit peu, c'est pas la fin du monde. Mais qu'en est-il si c'était vraiment la fin du monde? Le livre de l'Apocalypse, dont nous avons entendu un extrait aujourd'hui et dont la lecture, une lecture partielle continue et s'est commencée depuis lundi, il va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année liturgique, donc jusqu'au temps de l'Avent, aborde justement ce thème-là. Une situation dans la vie des premiers chrétiens qui leur faisait considérer que finalement pour eux c'était réellement la fin du monde. C'est un des textes les plus complexes de toute la Bible, parce qu'il est construit autour d'un style littéraire, d'un genre littéraire qui n'existe plus. On parle de la littérature apocalyptique. On en a un exemple de cette littérature-là dans l'Ancien Testament. Le livre de Daniel en est un bon exemple, mais c'est le seul texte du Nouveau Testament qui est vraiment là, qui prend ce style-là. Alors, c'est un langage tout à fait symbolique, qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, et que c'est vraiment tous les symboles qui sont importants. En fait, la chose qu'il faut éviter, ce serait de faire comme on pourrait le faire au cinéma, d'essayer de représenter de manière réelle ce qui est offert dans le livre de l'Apocalypse, à l'exemple, par exemple, de ce qu'on peut faire avec l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Alors, on n'est pas ici dans ce domaine-là du tout. D'ailleurs, regardez, si vous regardez le texte d'aujourd'hui, vous essayez de vous représenter ce dont il s'agit ici, les quatre qui sont devant le trône, c'est abominable, c'est un monstre qui est représenté ici. Donc, c'est un langage symbolique. Ou pour le dire d'une manière qu'on le comprend bien aujourd'hui, c'est un langage codé. Okay? On fait référence à des idées que seulement un certain nombre de gens qui puissent le comprendre, de sorte que ça réponde eux-mêmes à leur réalité, à leurs problèmes. Et de fait, les premiers chrétiens, les gens à qui le livre de l'Apocalypse est adressé, vivaient des situations là, extrêmement difficiles. Et dans cette vision qui nous est proposée ici dans ce texte, c'est la réalité du ciel, là où Dieu est assis sur son trône, et le Seigneur Jésus aussi qui est assis sur son trône pour juger tous les peuples de la terre. C'est la réalité du ciel qui nous est proposée. Les 24 anciens, on peut les interpréter peut-être comme les douze tribus de l'Ancien Testament, ou même les 12 apôtres, donc 12 plus 12. La représentation aussi du ciel est typique de ce qu'on croyait qui était le ciel, donc cette allusion aux pierres précieuses, au cristal, toute une manière de représenter le trône de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose qui était familier pour les gens pour se représenter la divinité. Aussi, ces quatre personnages qu'on voit, hein, le lion, la face d'homme, l'aigle, on le sait, c'est cette représentation-là qui nous a donné l'image qu'on a des quatre évangélistes, qui nous parle de Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui a promis de revenir pour nous amener auprès de lui, qui va juger les vivants et les morts à la fin du monde. Alors, c'est cette représentation-là. Et c'est intéressant qu'en parallèle avec ça, on entende un texte dans l'Évangile, tiré de l'Évangile selon saint Luc. Et si vous vous dites, « Me semble qu'on a entendu ça il n'y a pas très longtemps », de fait, vous avez raison, c'était l'Évangile le dimanche. Le contexte très proche est semblable, parce que dès le début de l'Évangile, on dit « Jésus adresse cette parole-là pour penser que le Seigneur reviendrait ou il tardait », alors on essayait de l'expliquer d'une manière ou d'une autre. Mais en situant ce texte-là dans le contexte plus large de l'Évangile selon saint Luc, c'est encore plus intéressant, parce que le texte qui précède et que vous avez entendu hier à la messe, je n'étais pas ici avec vous, j'étais chez le dentiste, assis sur la chaise du dentiste pour réparer une dent. Alors, l'abbé Lucien vous l'a lu, ce texte-là, rappelez-vous, hier, c'était Zachée. Donc, un publicain, un collecteur d'impôts qui cherche à voir Jésus et qui se convertit. Voyez le lien entre les deux textes. On sait qu'à l'époque de Jésus, les collecteurs d'impôts et les publicains étaient considérés comme des voleurs parce qu'ils n'étaient pas payés par le gouvernement romain. C'est entendu avec l'occupant romain qu'on leur autorisait à gagner un petit montant d'argent sur l'impôt qu'ils collectaient et ils pourraient considérer ça comme un salaire. Et tout le monde le savait très bien, les collecteurs d'impôts en prenaient toujours un petit peu plus que ce qu'ils étaient autorisés. De là, cette parole-là d'hier de Zachée dit qu'il va donner plus qu'il a pris à tous. Et voyez le lien avec l'Évangile d'aujourd'hui, qui était le même que dimanche, les mines qui sont confiées, qui sont faites fructifier. Ainsi donc, frères et sœurs, si parfois on a l'impression que le Seigneur tarde, il ne faut pas se décourager, et surtout, il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire dès aujourd'hui. Amen.